Naomi Kawase et Les deux Alfred, une comédie de Bruno Podalides. Une palme d'or sera même décernée, celle du court-métrage, par un jury rassemblant notamment le réalisateur Rachid Bouchareb ou la comédienne Céline Salette. L'objectif de cette édition est surtout symbolique, montrer que le milieu du cinéma résiste et soutenir la ville de Cannes qui vit principalement de l'activité de son palais des festivals.
Sophie Torlotin et on se trouve tout de suite Juan Gomez pour appel sur l'actualité.
Merci Charlotte de Rouen, bonne journée. 8h10 en temps universel, dans 30 secondes, vous avez la parole.
Radio G, 101.5 FM.
Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie, le début du XXe siècle.
Poétesse et universitaire,
dont nous amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Dans cet extrait du chapitre 5, intitulé « Où bourreaux et victimes en mêlent leur récit »,
pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent terrible,
je vous ai choisi un extrait du chapitre 9, intitulé «
Assise près de l'incubateur ». Espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du 20e et du 21e siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Bonjour. La semaine dernière, nous avons voyagé en Inde, en compagnie d'Alexandra David-Neal, grâce à la correspondance qu'elle entretiendra avec son mari Philippe Neal, épousé en 1904 et qu'elle a quitté en 1911 pour reprendre sa route vers l'Orient. Nous poursuivons aujourd'hui ce périple. Imaginez-vous, il y a 100 ans, cheminant sur les pentes de l'Himalaya, si tant est que vous arriviez à suivre Alexandra David-Neal. En effet, on est stupéfait de la vitalité de cette femme, âgée de 44 ans, que rien n'arrête. Dans des conditions les plus précaires, elle atteint des altitudes de 4000 et 5000 mètres pour parfaire sa connaissance du bouddhisme, rencontrer le Dalai Lama. Elle sera la première femme européenne à entrer au Tibet. Ce n'est qu'en 1924, cependant, qu'elle parviendra à entrer dans la ville sainte de Lhasa, déguisée en moine et en mendiante. Pour l'instant, nous sommes en 1912 et nous retrouvons Alexandra à Tangu, au royaume du Sikkim, qui deviendra plus tard un état du nord de l'Inde.
Tangu, Sikkim, 9 juin 1912. Me voici redescendant des nues, mon bien cher. J'ai complété la traversée de l'Himalaya de part en part, de l'Inde au Tibet à peu près en ligne droite, directement du sud au nord. Je m'y suis hissée aux 5000 mètres d'altitude et même un peu plus haut. Dois-je dire que l'entreprise est difficile? Ce serait exagéré. Il suffit de jouir d'une bonne santé et de l'argent nécessaire aux frais bien médiocres du voyage. Je mentirais pourtant si je prétendais que c'est là une simple promenade à la portée de tous. Venir à cheval jusque dans le haut Sikkim par des chemins extravagants, camper ensuite dans les vallées de la frontière, affronter le vent des plateaux tibétains à ces hautes altitudes, non, c'est là plus que du simple jeu. Je suis robuste, et cependant, l'autre matin, j'ai cru mourir. J'étais arrivée à l'étape bien avant mes porteurs et mes tentes, C'était le jour où je quittais le Maharaja, continuant vers Jhansi. Il me fallut attendre 3 heures durant, sans abri, sous les rafales et la neige cinglante. Mon cuisinier se dit malade en arrivant. Je n'eus un peu de thé chaud que bien après. La nuit, je me couchais, sans feu, naturellement. Ma tente fermait mal. Au matin, il y avait un épais tapis de neige sur toute la vallée. La tente en était couverte. Je ne pouvais pas me mouvoir. J'étouffais, ayant dans la poitrine un petit sifflement qui ne me parut pas de bon augure. Je me dis, voilà la pneumonie ou l'angine de poitrine. Avec ce froid, sans soin, ça va pas traîner. Jamais je n'aurai la force de faire les 60 kilomètres qui me séparent des premières habitations. Et même là, il n'y a aucun secours médical à espérer. Je réfléchis un instant et me dis qu'après tout, c'était là une belle mort, parmi les solitudes majestueuses, au milieu d'un voyage pareil au mien, et que je n'avais qu'à prendre la chose du bon côté. Ce que je fis sans difficulté. Je me levai à grand-peine en songeant à la lettre que j'allais t'écrire. Et puis, ceci va t'amuser, je pensais que tu aimerais sans doute voir l'endroit qui t'avait privé, débarrassé, que faut-il dire, d'une femme de mon genre. Je pris donc mon appareil photographique et je me glissai à plat ventre sous la toile, manquant de force pour ouvrir la tente. Je croyais que je ne pourrais plus me remettre debout. Il faisait froid, un vent âpre. Tout était sous la neige. Je pris quelques vues et rentrai m'affaler sur une de mes caisses dans la tente. Je bus chaud, je demandai de l'eau chaude pour un bain de pied. À midi, je me sentis un peu mieux, mais toujours fort oppressé. Je fis seller le poney et je partis jusqu'au soir. J'ai vu cet après-midi-là un pays de rêve. Un pays ressemblant à notre Sahara, avec des monts oranges tranchant sur un ciel d'un bleu intense. Mais le sommet des monts oranges se couronnait d'une coiffure de neige et en d'étroites vallées dormaient de petits lacs aux eaux gelées. Une neige à demi glacée, une sorte de gelati à l'italienne tombait par instant et vous cinglait cruellement. Les gens que j'avais emmenés et qui étaient insensibles au paysage semblaient aux martyrs, et de les traîner derrière moi gémissant me fit brusquer mon retour, ce que je regrette infiniment. Le lendemain matin, je compris qu'en dépit des sifflements de ma poitrine, je ne m'en irais pas encore. Je pensais que l'on ne me ramènerait pas lié sur le cheval à la chaîne, que le grand lama aux cheveux longs n'aurait pas le souci de ma crémation, et que j'épargnerais aux bonnes demoiselles de la mission le scandale de funérailles païennes faites à une européenne. Oui, tous ces jours passés sous la tente avec de 3 à 4 degrés à midi et un vent terrible ont été durs. Mais je connais maintenant les délices de la cuisine faite sur un feu de bouse de yak. Il n'y a pas d'autre combustible au Tibet. Je connais aussi l'ennui d'être embarqué dans des expéditions de ce genre sans le matériel et le personnel convenable. J'ai eu des gens se battant pour la place auprès du feu qui brûlait dans la tente des domestiques et ai dû tout le temps lutter contre le mauvais vouloir d'hommes sans énergie qui n'aspiraient qu'à redescendre vers des régions moins dures. Mon saïs m'a abandonné le jour où je suis allée à la Korula et à la Sepola, les fameux 5000 mètres. Et j'ai pu me débrouiller sans lui, avec mon cheval qui manquait lui aussi d'enthousiasme.
Le 11 juin 1912,
j'ai commencé à couper la peau de mes lèvres et de mon nez avec des ciseaux. Cela va se guérir peu à peu. Mais j'étais dans un tel état que j'inspirais de la pitié aux Tibétains que je croisais sur la route du retour. Ah, le mouchi qui aime les jolies femmes, la sienne ne l'est guère pour l'instant. Tu ne sais pas, la hantise du retour me vient. J'aurais souhaité aller plus loin vers le cœur du Tibet. Mais puisque cela était impossible, il me semble que le reste n'a plus d'intérêt. C'est là évidemment une impression passagère. De retour dans l'Inde, je vais me reprendre et me ressaisir. Pour l'instant, je reste ensorcelé. J'ai été au bord d'un mystère. Oh, cette dernière chaîne de l'Himalaya, le dernier col très large qui s'inclinait vers une pente descendant à la steppe immense, déserte, où s'érigent sentinelles puériles mais émouvantes, le fortin de la première ville tibétaine. Moi, je serais resté là des jours, des mois, peut-être, et parfois la folle envie me prend de louer des yaks, d'emmener deux ou trois serviteurs tibétains plus robustes que les miens, et de remonter là-haut pour revoir, voir mieux, davantage, cela que je ne reverrai jamais. Et je ne suis pas la seule. Ici, tous les Européens subissent l'étrange fascination. On dit « le Tibet », à voix presque basse, religieusement, avec un peu de crainte. Je vais probablement le retrouver à une autre frontière, mais ce sera le Tibet de la vallée de Chumbi. Et le résident m'a prévenu, c'est un faux Tibet, verdoyant comme les vallées du Sikkim, et sans rien de l'âpreté du vrai Tibet effrayant et attirant que j'ai contemplé. Oui, je vais en rêver longtemps, toute ma vie. Et un lien restera entre moi et cette contrée des nuages et des neiges, puisque ma pensée traduite et imprimée en tibétain va s'en aller qui sait où, à travers le pays. Pourquoi donc, mon grand cher, sembles-tu t'inquiéter de ce que tu appelles mon mysticisme croissant ? La grande joie, la grande lumière qui met un rayonnement autour de notre vie, n'est-ce pas précisément de voir au-delà de notre personnalité chétive et étroite ? Ah oui, le jeu de la pensée, la gymnastique de l'esprit, délié, analysant, disséquant, scrutant, c'est le grand plaisir des tout cerveaux. Et crois bien que je n'y suis un point devenu inapte et qu'il m'amuse toujours, mais il vient un temps où jouer ne semble plus le summum de l'intérêt. On a goûté à autre chose, a entrouvert une autre porte. Sans doute, c'est encore une nurserie pleine de fables chantantes et d'images enfantines à l'usage des tout-petits que nous sommes toujours, mais déjà approchons-nous du seuil au-delà duquel cesse la foi, l'espérance, l'anxiété, le désir. Et c'est là à peu près toute la sagesse. En tout cas, vois-tu, cela vaut mieux que la férocité d'âme de la plupart des chrétiens. Mes bonnes voisines qui me guettent vraiment en m'offrant une foule de plats de leur cuisine, qui est malheureusement infecte, un mélange fâcheux d'Angleterre et de Finlande, sont un peu harassantes avec leur prosélytisme. Moi, je ne leur parle jamais du bouddhisme que pour répondre à leurs questions. Cependant, l'autre jour où elles excédaient la dose avec leur « loving God », Dieu tout aimant et tout bon, je ne pus m'empêcher de leur dire. J'ai vu à Édimbourg, par le froid, des enfants en grand nombre. Des babies, sans vêtements, sans souliers, les pieds fendus par le gel, laissant des traces sanglantes sur la pierre des trottoirs. Je me rappelle les catastrophes de Messine, du Montpellier et l'autre jour le Titanic. Je ne vois pas beaucoup votre loving God là-dedans. Et l'une d'elles de s'écrier. C'est à cause du péché que les enfants d'Édimbourg souffraient. Mais il y en avait de 2 et 5 ans. Ils expiaient les péchés de leurs parents. Les gens du Titanic ne songeaient pas à Dieu. Ils dansaient au moment de la catastrophe. Et voilà. Faut-il avoir l'imagination dépravée pour imaginer un père céleste qui se venge sur les innocents et noie 1500 personnes parce qu'elles tournaient en rond au son de la musique.
Pyongyang, 23 juin 1912. Eh oui, mon bien cher, me revoilà à Pyongyang qui n'a rien de spécialement intéressant. Pourquoi j'y suis ? Voilà. Le Dalai Lama s'en retourne décidément dans son pays. Et je vais le saluer sur sa route et prendre, s'il est possible, quelques photographies du cortège qui l'escorte. En tous les cas, voir la physionomie pittoresque du défilé. Un touriste ordinaire, à moins d'emmener sa tente, ne pourrait pas se permettre l'excursion, car les bungalows sont retenus pour le Maharaja qui se rend lui aussi à Rénoc pour saluer le pape jaune. Mais le Maharaja m'a gracieusement offert de me laisser partager le bungalow avec lui. Alors, me voici logé. C'est un peu cohu. La cour en voyage est une cour himalayenne. Des chevaux, des gens, des costumes de toutes couleurs, du bruit. Moins pourtant que je ne l'avais craint. Un jeune ours, animal familier du vieux prince. Tu entends bien, c'est avec le vieux Maharaja que je me trouve. Enfin, c'est très exotique. Le jeune Maharaja héritier viendra aussi à Rénoc, mais lui logera dans sa tente. D'abord parce qu'il n'y a que deux chambres à coucher au bungalow, et ensuite parce qu'il n'est pas en bon terme avec son père et ne désire pas se trouver si près de lui. Mon départ a été signalé par une pluie de cadeaux en nature. Les officiels de la Political Agency, résidence, ont reçu, je ne sais d'où, des fruits merveilleux, de vraies pièces d'exposition, des litchis frais et des mangues. On m'en a envoyé à profusion et le Maharaja et son fils en ont également reçu.
Dans la seconde partie de cette lettre, Alexandra David-Neal évoque la mort d'un ami commun, ce qui l'amène à partager avec son mari sa vision bouddhiste de l'existence.
« Eh mon bien cher, tu sembles toi aussi regretter la chimère des croyants, comme tu dis, et la fin t'est une perspective pénible. Qu'est-ce que la fin, Mucci ? Est-ce qu'il y a une fin ? Est-ce qu'il y a un commencement ? Fin de quoi ? On peut, crois-le, passer au-delà de cette vision étroite en pratiquant l'analyse clairvoyante de son moi. C'est le moi dont on redoute la disparition, l'anéantissement. Mais qu'est-ce que le moi ? Un mirage, un torrent perpétuellement fuyant, fait de millions de particules diverses venues de multiples places, de multiples organismes. Il y a immortalité, éternité, en l'universelle et infinie existence. Des mots, diras-tu. Ce n'est pas ce genre de continuité que je cherche, c'est celle de Monsieur Neal. Oh, cher, crois-tu que cela existe, Monsieur Neal ? À quel âge et dans quelle disposition d'esprit le souhaites-tu permanent ? Monsieur Neal, cela était un nouveau-né, t'en souviens-tu ? Non. Et depuis ce temps, cela était un nombre très grand d'avatars, de pensées, d'actions. Monsieur Neal, cela a été la manifestation, le résultat de causes multiples, de réincarnations de vie, de substances en nombre incalculable. Tu as été la suite de la pensée d'autrui, la suite de la vie des aliments que tu as absorbés et qui ont déterminé en ton corps des impulsions diverses. Folie de dire « moi », nous qui sommes légion. Folie de parler de commencement ou de fin. Des mots. Non pas seulement des mots, mais la réalisation vivante de cette vérité pour ceux qui réfléchissent, qui méditent. Cela, ce n'est pas le paradis dispensé par la grâce d'un Dieu. C'est la connaissance, acquise par soi-même, de l'éternelle vie. Et c'est, comme le Bouddha l'a promis à ses disciples, entrer en cette vie même dans l'éternité et ne plus connaître la mort. Un sermon ? Une fois en passant, tu l'excuseras. Je ne suis pas très tracassière en mon prosélytisme.
Greenock, 24 juin 1912. Je me mets en route à 7 heures. Il ne pleut plus, mais les routes sont affreusement boueuses et glissantes. Tu te souviendras que ces routes sont des sentiers de montagne. Le début est une descente raide et ininterrompue de plus de 10 km. J'ai le bras rompu de retenir mon cheval qui glisse tout le temps. Si tu me voyais dans les descentes raides et pierreuses à travers les torrents, tu ne pourrais t'empêcher de me reconnaître quelque audace. Et cela, mon ami, c'est une victoire de l'esprit sur la matière, de la volonté sur la chair, comme on disait jadis. J'étais née audacieuse en pensée, en désir seulement, et affreusement poltronne de corps. Non pas la poltronnerie qui consiste à avoir peur dans le noir, ça c'est la poltronnerie de l'esprit, mais la crainte de me faire mal, l'appréhension instinctive, plus rapide que tout raisonnement, qui me faisait reculer au premier abord, au gymnase sous l'effet de l'effroi de mes cellules, redoutant d'être froissée, endommagée. Le grand lama passera ici probablement demain matin, à 6 heures. Il pleuvra peut-être. Il sera dans son dandy et on ne lui verra pas le bout du nez. Le Maharaja va l'escorter jusqu'à Hari, où il va passer la journée et la nuit. Son fils se joindra, je crois, au cortège. Il tient à lui dire certaines choses et veut lui parler à Hari. Bien inutile la peine que prend mon jeune ami. Enfin, il aura satisfait sa conscience et se sera persuadé qu'il n'y a pas plus d'espoir à placer dans la papauté asiatique que dans celle de Rome.
Juin 1912. Réveil. Non, allons par ordre. Hier soir, deux séides de l'altesse se présentent, m'apportant un cadeau de leur seigneur. Devine, un jeune hibou dans un panier. Ce n'est que dans les rêves que ces histoires-là arrivent. Mais je ne rêve pas et me voici pourvu d'un hibou en bas âge dont j'ai fort pitié et qui aura sa liberté au premier moment. Réveil à 5 heures. Nuages, déluge. Hier soir, le jeune prince est venu voir son père et ensuite causer avec moi. Il a été convenu que j'irai moi aussi à Hari. Le Dalai Lama ne sera pas aussi matinal qu'on l'avait craint. Je laisse partir le Maharaja à 5h45 et monte à cheval à 7h30. Il ne pleut plus, mais il faut se hâter et j'enlève les 5 km en montée dure par une route impossible à une allure plutôt vive. Mon poney est excellent en montée. Le long de la route, des groupes de gens, de ci, de là, des vases en cuivre avec des bouquets de fleurs et de petits tas de bois allumés sur lesquels on brûle en guise d'encens une plante verte très commune dans le pays qui sent un peu comme le pyrêtre. Ça n'est pas coûteux et ça fait beaucoup de fumée. Je passe entre toutes ces fumées avec un certain dédain car à la chaîne c'est de l'encens et du santal que j'ai respiré sur ma route. Et puis voici le bungalow qui attend le pontife. On m'invite à entrer. Je vais voir préparer sa chambre à coucher. Il y a beaucoup de reporters qui auraient voulu être à ma place, mais on ne les eut pas laissés entrer. Je vais errer ensuite dans l'enclos, regarder les gens venus des environs, des femmes tibétaines bien jolies et tout le déballage oriental. Au bout d'une heure, le cortège est annoncé. Je crois que le Dalai Lama voyage dans son dandy, mais ce matin, il est à cheval, et je ne le reconnais que quand il est presque sur moi. Il a l'air de D'Artagnan plutôt que d'un pape. Voici le défilé des quêteurs de bénédiction qui s'organise. Des hommes avec de longs fouets tartares ou mongols les font ranger et lèvent leur engin sur les récalcitrants ou les trop longs à prendre leur place. Ici, on se contente de la menace, mais à Lhasa, les dévots sont bel et bien cinglés. L'Adenla, qui a vu cela, m'a raconté des scènes pitoyables. Le Dalai Lama leur promène sur la tête, à chacun individuellement, les bouts d'une sorte de plumeau composé de lanière d'étoffe. C'est la bénédiction pour le vulgaire. Aux gens d'importance, dont je fus, ils posent les mains sur la tête. J'erre encore parmi la foule. On ne voit pas ces spectacles tous les jours. Mais un lama me rattrape. Que dit-il ? Mon boy balbutie quelque chose. Quoi ? Ah bon ! Le Dalai Lama va me recevoir en audience privée. Un signe honneur. Il ne reçoit que les Maharaja père et fils. Mais ce ne sera pas pour tout de suite. Les orientaux ne sont jamais pressés. Enfin, c'est le moment de se rendre chez le Dalai Lama. J'y vais avec le prince comme interprète. Nous causons du manuscrit qu'il m'a envoyé, de certaines choses qui ne me paraissent pas claires, et il me fait cette proposition à laquelle je ne m'attendais pas. « Demandez-moi les explications que vous voudrez. Monsieur Bell, c'est l'agent politique anglais, se chargera de me les faire parvenir au Tibet et je vous répondrai toujours. » Ça, c'est gentil de sa part. Et le fait de rester en relation avec un Dalai Lama est une aubaine que nombre d'orientalistes m'environt. N'importe. Cet homme n'a pas ma sympathie. J'entends ne la possède qu'à titre général de frère en l'humanité. Je n'aime pas les papes. Je n'aime pas l'espèce de catholicisme bouddhiste auquel celui-ci préside. Tout est apprêté en lui. Il n'a ni cordialité, ni bienveillance. L'entrevue finie, ah, tu sais, lui aussi m'a posé une écharpe sur l'épaule. Une large, blanche en soie et qui sent horriblement mauvais, quoique paraissant très propre. Je ne sais où la fourrer, pour le moment elle pend dans la bathroom. J'espère que l'odeur va s'en aller, car je vais la garder en souvenir. Souvenir de voyage, simplement, curiosité de vitrine. Elle ne contient rien de l'émotion sincère de la misérable petite loque de mousseline que j'ai reçue et promis de garder sur la route de Tongu à Kampatsang, parmi les rhododendrons en fleurs. Un où, pour une nuit du moins, trois esprits bien différents, celui d'un ermite du lamaïsme rouge, d'un prince jaune qui est une incarnation, et le mien, ont communié dans un même désir, une même aspiration. Celle-là est, non pièce de vitrine, mais pièce de reliquaire, souvenir de ces heures vibrantes et rares qu'on peut compter dans une vie.
Pendant une quarantaine d'années, Alexandra David-Neal voyagea à pied à travers l'Inde, la Chine et le Tibet. Son attitude pionnière dans le domaine du voyage est à souligner. À la fois bouddhiste convaincue et observatrice critique, elle fait œuvre également de traductrice au monastère de Kumbum au Tibet, où elle traduit la fameuse Prajnaparamita, ensemble de textes en sanskrit, développant la philosophie du bouddhisme. Elle restera jusqu'à la fin de sa vie une féministe déterminée. Les lettres que nous avons choisi de vous lire ne sont qu'un petit aperçu des 943 pages de correspondance avec son mari, 1904-1941, publiées en 2000 aux éditions Plon. Cette abondante correspondance avait aussi pour but de lui servir d'aide-mémoire pour la confection d'un ouvrage de voyage. Cette relation épistolaire s'interrompra en 1941 à la mort de Philippe Neal. Alexandra poursuivra ses voyages pendant de nombreuses années et mourra à 101 ans, non sans avoir renouvelé son passeport 6 mois auparavant. Cette émission a été préparée et lue par Anne et Marie. La technique était assurée par Vincent et Claude Michel. La musique que vous avez entendue a été composée pour le film Himalaya. Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr. Vous nous y retrouverez.
www.radio-g.fr.
see the disgrace with your face.